Bonjour et bienvenue, Espérance, aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance, aujourd'hui, est une émission de réflexion biblique.
Aujourd'hui, nous continuons notre série sur le VIH et le sida.
Avec l'appui d'autres participants, nous chercherons à répondre d'un point de vue biblique à quelques questions fréquemment posées par ceux et celles qui se trouvent confrontés au sida. Il faut rappeler que les interviews originaux avec ces participants étaient en anglais. Les interventions ont été traduites et leurs propos redits, joués par des francophones.
Lors de nos dernières émissions, nous avons discuté des moyens pratiques que l'Église peut utiliser dans la lutte contre le VIH et le sida. Nous avons parlé du secours que la communauté peut apporter aux orphelins, des groupes de soutien et de la prévention, en particulier parmi les jeunes.
Le sida est d'abord un problème médical, mais il entraîne de graves conséquences sur le plan relationnel et de profonds problèmes spirituels. Trop souvent, il est responsable de la stigmatisation et de la discrimination. Alors, comment pouvons-nous répondre aux besoins relationnels, spirituels et physiques des personnes touchées par le VIH et le sida?
Aujourd'hui, nous allons aborder ce qui est souvent perçu comme un élément clé dans le soutien des personnes qui vivent avec le VIH et le sida. Il s'agit des soins à domicile. Ceci représente une expression de la compassion chrétienne, une aide pratique et un réconfort précieux pour ceux qui sont touchés par cette maladie.
En devenant plus proche des personnes contaminées, ceux qui apportent ces soins peuvent contribuer à la diminution de la stigmatisation liée au VIH et au sida. Une église sud-africaine s'est lancée dans les soins à domicile avec son projet Positive Ray. Le directeur, le pasteur Clément Joseph, va nous raconter ce qu'il souhaiterait faire.
Notre programme de soins à domicile est au cœur de notre projet. Nous faisons de l'éducation et de la prévention au travers de notre programme de soins à domicile. Il consiste à parler aux gens de la pandémie du sida lors de nos visites à domicile. Tout en apportant de l'information, nous identifions les personnes qui sont touchées par les VIH ou maladies du sida. Nos volontaires s'occupent de ceux qui sont très malades en leur apportant un soutien moral et spirituel, mais aussi en effectuant des tâches ménagères comme le rangement et le nettoyage de la pièce dans laquelle le malade vit, en faisant la vaisselle et la cuisine, en l'amenant à la clinique ou à l'hôpital ou en allant chercher ses médicaments. Donc, il y a tout un tas de choses que l'on peut faire. Nous faisons cela car nous voulons aimer les autres de la même manière que Jésus-Christ nous a aimés.
Mais l'aide à domicile ne risque-t-elle pas de devenir un trop grand fardeau pour les membres de la famille? Joséphine Muniwoki de l'association Faraja au Kenya y répond.
Les programmes de soins à domicile sont censés former les membres d'une famille à prendre soin de la personne qui est malade. Dès qu'ils comprennent ce que cela implique et qu'ils ne sont pas les seuls et que d'autres personnes ont à cœur de les accompagner, alors ils n'ont plus de difficultés à le faire. Ils savent que s'ils ont besoin, par exemple, de répit ou bien de partir quelques jours, ceux que nous appelons les travailleurs de santé communautaire sont prêts à leur venir en aide pour leur permettre de souffler un peu. Ils ne sont pas seuls dans cette épreuve. Ils peuvent se sentir ignorants ou incapables, mais lorsqu'ils comprennent que les gens les aideront à comprendre les bases, alors ils n'ont plus peur. Bien sûr, ils se fatiguent, mais quand cela arrive, nous entrons en jeu pour les soutenir et leur donner du repos.
Lorsque l'on fait appel à Joséphine Muniwoki et à ses volontaires de Faraja, ils offrent une formation pour tous les membres de la famille. Et si quelqu'un ne se sent pas capable d'accomplir les tâches plus physiques, il peut aider différemment.
Si vous ne pouvez pas apporter une aide pratique, comme donner le bain à une personne malade, vous pouvez quand même lui montrer de l'amour, par exemple en lui lisant la Bible. Vous pouvez l'encourager, lui faire les courses ou la cuisine, lui faire son linge, nettoyer l'endroit où elle vit. lui donner des conseils.
Il faut reconnaître que les personnes malades du sida ont des besoins divers et variés. La formation donnée par Faraja vise à répondre à tous ces besoins.
Il s'agit de gestes de base comme porter des gants ou poser des films de polyéthylène sur le lit lorsqu'on lave un patient ou comment utiliser des seaux ou des bassines. Si vous n'avez pas de gants, vous pouvez utiliser des sacs plastiques.
Insister sur l'utilisation de gants peut créer la peur chez certains. Cédons la parole une fois de plus à Joséphine. Elle expliquera pourquoi cela est parfois nécessaire.
Il est nécessaire de porter des gants. Si vous lavez un patient qui a des plaies sous son corps, ceci afin de vous protéger vous-même, mais aussi pour protéger le patient d'infection. Il est également nécessaire de porter des gants si vous changez un patient qui a souillé ses vêtements et que vous ne voulez pas vous salir. Vous devriez utiliser des gants si vous êtes amené à porter aux toilettes un bassin hygiénique, un bac avec de l'urine ou bien des excréments, et que vous voulez protéger vous et le patient des infections. Il faut également bien vérifier que vous n'avez pas vous-même des plaies, car vous pourrez être infecté par ce biais. C'est pourquoi une bonne chose d'expliquer au patient pourquoi vous utilisez des gants, car en vous voyant les enfiler, ils risquent de penser que vous avez peur d'eux. Donc, c'est préférable de leur expliquer pourquoi vous en utilisez. Vous êtes également formé pour les protéger des infections que vous pourrez leur transmettre.
Joséphine Muniwoki explique que si une église veut lancer un programme d'aide à domicile, il vaut mieux qu'elle établisse certains critères concernant le type de personnes qui pourraient s'y engager.
Avant tout, il faut engager des personnes qui sont intéressées et qui ressentent un appel à travailler dans ce domaine. Ensuite, la deuxième étape consiste à leur donner une formation et à prier avec elles, parce qu'il faut énormément de force de la part du Seigneur pour ne pas craquer et s'arrêter soudainement. Il vaut mieux s'arranger pour qu'elles n'aient pas à faire les visites tous les jours, mais qu'elles commencent éventuellement par aider une fois par semaine, pour ensuite, avec l'expérience, augmenter la fréquence.
C'est ainsi qu'ont procédé les membres d'une église, lorsqu'elle s'est engagée sur le terrain avec les soins à domicile.
Ils ont eu l'opportunité d'apporter des soins à travers le travail pastoral qu'ils ont pu effectuer au sein de leur groupe de soutien pour les personnes qui vivent avec le VIH et le sida. Ils ont réalisé qu'une des patientes était vraiment mal en point et qu'elle avait besoin de soins médicaux. Alors, ils ont prié pour cette femme et puis ils ont continué à la suivre quand elle a commencé un traitement d'antirétroviraux pour vérifier qu'elle prenait correctement ses remèdes. Et ils se sont souciés d'elle de manière générale.
Un tel ministère est une marque d'obéissance aux paroles de Jésus, trouvée dans Matthieu, chapitre 25, les versets 35 et 36.
Car j'ai souffert de la faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu, et vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade, et vous m'avez soigné. J'étais en prison, et vous êtes venus à moi.
Les paroles « J'étais malade, et vous m'avez soigné » me touchent beaucoup. Pour le faire, nous n'avons besoin de rien, sinon de nous-mêmes. Quand vous décidez d'entrer dans la vie d'une personne qui vit avec le sida, cette dernière en sera ravie. Alors, ne vous sentez pas incapable. Faites un pas de foi et ne restez pas seul. Il est toujours préférable de faire ce genre de choses en groupe ou accompagné d'une autre personne pour ne jamais être seul. De plus, sachez que Jésus sera toujours avec vous pour vous encourager et le Saint-Esprit qui vit en nous vous encouragera éternellement. Nous apportons des soins depuis maintenant 6 ans. Oui, nous avons eu des moments où nous avons voulu abandonner, mais nous remercions Dieu pour l'encouragement qu'il nous a apporté par son esprit.
Les soins à domicile représentent un moyen simple accessible à tous les membres de l'Église et très efficace pour atteindre ceux qui sont infectés.
Lors de notre prochaine émission d'Espérance aujourd'hui, nous entendrons le témoignage d'une personne séropositive qui est maintenant engagée dans le soutien aux personnes qui, comme elle, sont infectées.
Nous remercions tous ceux qui ont participé à cette émission. Nous espérons vous retrouver bientôt, mais en attendant, nous vous disons au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.